Musicoscope, focus sur la musique contemporaine, les premiers et troisièmes lundis du mois, sur Radio Campus Angers, 103 FM.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Musicoscope, votre émission dédiée à la découverte et au décryptage des trésors de la musique contemporaine. Je suis Camille, votre hôte pour ce moment musical, et aujourd'hui est un épisode un peu spécial, car dédié au lien qui unit la musique et la mort. Pas de sordide ou de grandiloquent pour nous aujourd'hui, mais des hommages, des souvenirs et des liens qu'on continue de tisser avec ceux qui sont partis. Nous parlerons donc aujourd'hui de la manière dont la musique revêt parfois une fonction d'accompagnement de la mort, des hommages que les compositeurs rendent aux défunts, mais également de la musique qui devient parfois un acte engagé quand elle nous rappelle à ceux qui ne sont plus. Dans notre monde où la question du contact, du lien les uns avec les autres, du rapport avec ce qu'on nomme différence est toujours plus sensible, s'il est bien une chose qui nous rassemble tous, c'est que notre vie à chacun aura un jour une fin. Je précise que nous sous-entendons ici la vie en tant que vie terrestre et que nous ne parlerons pas dans cette émission des questions de foi ou de spiritualité concernant une éventuelle autre forme de vie après la mort. Ce mystère de la mort inéluctable, les compositeurs, comme tous les autres, le questionnent. Quand? Comment? Quoi après? Quel héritage on laisse derrière nous? Ce sont toutes ces questions qui ont nourri Gérard Griset dans ses quatre chants pour franchir le seuil, des méditations sur le thème de la mort composées à l'aube de ses 50 ans. En voici un extrait. Vous venez d'entendre un extrait de la berceuse finale des quatre chants pour franchir le seuil de Gérard Griset, La mort de l'humanité. C'est d'ailleurs une sorte de chant du cygne pour le compositeur qui mourra quelques semaines seulement après avoir achevé cette œuvre. Depuis toujours, la musique rythme la vie, et ce, quelles que soient les civilisations. Elle est utilisée pour accompagner des moments festifs, mais aussi d'autres de recueillement. Et en ce qui concerne l'accompagnement des défunts, elle se pare de couleurs très différentes en fonction des civilisations. C'est ce qu'a mis en lumière André Jolivet dans ses 5 danses rituelles. Il y invoque des groupements humains primitifs et leurs rites, dans la danse initiatique, celle du héros ou la danse nuptiale. Vous entendrez ici la 5e danse, la danse funéraire, dans sa version originale pour piano, une sorte de procession, de marche inexorable. Cette image de procession lente rejoint dans l'idée un genre musical qui a accompagné ceux qui partent depuis des siècles, c'est celui de la marche funèbre. La musique étant à l'origine très liée à des textes, il n'est pas rare que certains motifs musicaux aient au fil du temps acquis une sorte de signification tacite. C'est ainsi que certains rythmes seront particulièrement utilisés dans des œuvres évoquant la mort. C'est le cas de ce qu'on appelle les rythmes pointés, à savoir des rythmes irréguliers avec une alternance entre une note longue et une courte. Tam, ta-tam ou long, court-long. Vous pouvez par exemple retrouver ce rythme typique de l'évocation mortuaire dans le cortège de Sarabande et cortège d'Henri Dutilleux. Portée expressive du basson est particulièrement puissante dans ce cortège pour accompagner la mort. Et je vous conseille évidemment d'aller écouter la sarabande qui la précède, qui est tout aussi belle. L'évolution de la musique et la place de la religion chrétienne étant évidemment très liées en Occident, il nous est impossible de parler de l'évocation de la mort en musique sans citer les Requiem. Le requiem, qui veut dire « repos » en latin, est la messe des morts. Et son exemple le plus fameux est évidemment celui de Mozart, pardon, un chef-d'œuvre musical incontesté. Et bien que les requiem aient initialement été pensés pour des funérailles et offices religieux, l'éloignement progressif de la société et de la pratique religieuse a fait de ces pièces des œuvres à part entière et plus toujours associées à des textes liturgiques. On parle maintenant de requiem comme d'hommage aux défunts, indépendamment de toute confession. Écoutons un extrait du Requiem for Adam de Terry Riley qui rend hommage au fils d'un des interprètes de cette version, disparu après un accident de randonnée. C'est le cortège funèbre au Monte Diablo. Nous sommes tous confrontés à la mort autour de nous, il n'est pas rare que les compositeurs utilisent leur art pour entretenir le souvenir de celui qui part. Ce requiem de Terry Riley est d'ailleurs resté au répertoire du Kronos Quartet qu'il interprète et qui rend donc régulièrement hommage au jeune Adam, dont le souvenir perdure aussi au travers de la musique et sous les doigts de son père au violon. Dans la même veine, comment ne pas citer le concerto à la mémoire d'un ange d'Alban Berg, composé à la mémoire de la jeune Marion Gropius, fille d'Alma Mahler, qui s'ouvre sur des mythiques cordes à vide du violon, quand l'archer frotte sur les cordes sans que les doigts de la main gauche n'appuient sur ces dernières pour en changer la hauteur, comme quand les violonistes s'accordent. Ces cordes à nu qui ouvrent l'hommage avec la plus grande simplicité, humble, pure et pourtant si fragile. Mais les compositeurs se rendent aussi hommage entre eux. Dans la culture musicale classique, les musiciens ont l'habitude d'étudier le style des compositeurs et ce qui fait leur spécificité et leur attrait. C'est donc souvent avec de l'admiration qu'ils considèrent leurs aînés et collègues et qu'ils traduisent ce lien en musique dans ce qu'on appelle les tombeaux. Voici le tombeau de Philippe Hurel, dédié à la mémoire de Gérard Griset, dont nous avons entendu une œuvre en début d'émission. L'occasion pour leurs compositeurs de faire un sympathique clin d'œil à l'écriture de leurs aînés, comme le fait Ravel dans le tombeau de Couperin, où il mélange sa patte avec des codes d'écriture anciens, mais aussi Tristan Murail dans Cloche d'adieu et un sourire, hommage à Olivier Messiaen, dans lequel il lui emprunte des couleurs issues du prélude Cloche d'angoisse et Larmes d'adieu. Un extrait tout de suite. Dans une certaine mesure, ce lien avec ceux qui ne sont plus devient donc parfois une source d'inspiration pour les compositeurs, qui célèbrent alors leurs proches au travers de leur musique. C'est dans ce cas une initiative individuelle, mais il arrive également que la mort d'un compositeur devienne prétexte pour les programmateurs à une saison musicale dédiée. Il n'est alors pas rare que des compositeurs contemporains soient engagés pour lui rendre hommage avec des commandes de pièces par des institutions.
Musicoscope sur Radio Campus Angers 103 FM.
Le décès d'un compositeur remet d'ailleurs sur la table la question de ce qu'on considère comme de la musique contemporaine. Si on prend le terme contemporain, au sens strict, la musique d'un compositeur passerait donc dans le registre ancien ou classique à la date de sa mort, ce qui semble un peu drastique. Les choix sont multiples dans ce cas, et à vrai dire, personne n'est vraiment d'accord, surtout parce qu'on n'a pas d'autres mots de vocabulaire que musique contemporaine pour désigner la musique depuis 1945, alors que de nombreuses esthétiques se sont succédées depuis lors. Certains parlent de musique contemporaine en incluant seulement les 60 dernières années musicales, un choix arrêté mais arbitraire. D'autres se basent sur le moment où les œuvres tombent dans le droit public. D'autres encore considèrent la musique contemporaine comme celle des 10 dernières années et dont les compositeurs sont encore en vie. Et enfin, certains autres parlent plus volontiers d'esthétique contemporaine depuis 1945 et en différenciant les grands courants, faute de mieux. C'est donc une question sur laquelle il y a encore matière à se pencher, et récemment encore avec Kaya Saariaou, qui nous a quittés en juin dernier. Est-elle considérée comme une compositrice entrée dans l'histoire ou toujours contemporaine? Et si elle est toujours inclue dans le grand fourre-tout de ce qu'on nomme musique contemporaine, pour combien de temps encore? Et quand elle ne sera plus considérée comme compositrice de musique contemporaine, comment alors nommer le courant musical auquel elle se rattache? Faute de pouvoir vous apporter des réponses ici, voici un extrait d'une de ses dernières œuvres, elle qui aura été une figure majeure de la composition ces dernières années. D'innocence de Kaya Saariaho, son dernier opéra créé en 2021 sur un livret de Sophie Oksanen qui met en scène les rescapés d'une fusillade dans une école et de leur vie, questions et considérations quelques années après le drame. Car la musique, c'est rendre hommage à ce qu'on a aimé, certes, mais également s'exprimer hors du cadre individuel et traiter de l'échelle collective. L'histoire et l'évolution de l'humanité sont quasiment intégralement basées autour des jeux de pouvoir. Et qui dit pouvoir dit conflit, dit souvent guerre, et qui dit guerre dit victime. Bien que les conflits n'aient de mémoire d'homme jamais cessé, la mondialisation et l'accès à l'information au XXe siècle ont rendu ces drames plus terrifiants et plus choquants encore, car plus proches et à une échelle dont on n'avait que peu conscience auparavant. C'est là que les artistes, et ici les musiciens, vont faire leur possible pour participer, comme ils le peuvent, aux liens que les civils tentent de tisser vers les victimes de ces conflits. Voici un extrait de Traîne à la mémoire des victimes d'Hiroshima, dont Krzysztof Penderecki, son compositeur, disait « Puisse le traîne exprimer ma ferme conviction que les sacrifices d'Hiroshima ne soient jamais oubliés et perdus. » Là où Penderecki a composé cette œuvre en hommage aux victimes d'Hiroshima sans en être une lui-même, un autre drame a secoué le milieu du XXe siècle en emportant avec lui des centaines de milliers de personnes en Europe, dont des artistes. Ce drame, c'est évidemment la Shoah et ses 6 millions de victimes. C'est pendant cette période que le compositeur Olivier Messiaen est fait prisonnier dans un stalag de Görlitz en Allemagne et qu'il y compose le très fameux Quatuor pour la fin du temps, dont l'effectif correspond à celui des musiciens emprisonnés avec lui. Messiaen sera finalement libéré, mais reste ce quatuor inspiré par le récit de l'Apocalypse, vision peut-être pas si éloignée de celle de la vie de l'époque. On peut également en partie comprendre de par cette portée historique pourquoi la musique contemporaine est si souvent tendue, avec des harmonies qui frottent ou des mélodies déstructurées. Écrire de la musique, c'est aussi peindre le quotidien, et c'est dire si le leur était peuplé de fantômes. Ces tueries de masse nous renvoient également à la question du devoir de mémoire et sur notre manière de transmettre une histoire que nous n'avons pour la plupart pas vécue. Et c'est encore là où la musique peut avoir un rôle à jouer, celui de passeur, mais aussi celui qui, sous couvert de l'art, s'exprime, qui ose et qui met devant des faits qu'on ne veut pas toujours voir. Je vous laisse avec un extrait de Bizerero de Gareth List, dont nous reparlerons ensuite.
Je suis le cinquième fils. En 1994, au moment du génocide de Patutsi, j'avais 16 ans. Papa était particulièrement. Il semblait craindre quelque chose de monstrueux.
C'était très étrange.
Dans la nuit du 6 avril, nous avons appris l'écrasement de l'avion de Habyarimana.
Le jour de la mort du président Habyarimana, nous avons vu nos voisins sortir avec des rachets.
Le lendemain,
c'était avec deux de
mes l'accident du président Habyarimana.
J'ai supplié mes bourreaux pour qu'ils me tuent.
Les mots que vous venez d'entendre, ce sont ceux des survivants au génocide des Tutsis du Rwanda. Des témoignages qui ont été réutilisés par Gareth List dans Bizerero, accompagnés par des instruments occidentaux et traditionnels africains. À son échelle, Gareth List pense cette œuvre dans une démarche de travail de mémoire et de deuil, et participe au travers de sa musique à la prise de conscience de la responsabilité de la France et de la Belgique, entre autres, dans le génocide, mais aussi, et je cite, « à une tentative de réparation symbolique envers les morts et à l'usage des vivants ». On voit donc que la musique peut être une forme d'art engagé sur des questions politiques et de mémoire, bien ancrées dans la vie réelle. Mais pour finir sur une note un peu plus ésotérique, rappelons-nous que les compositeurs aiment également beaucoup raconter des histoires inventées et mettre en scène des personnages hauts en couleur. Là encore, la mort n'est pas toujours loin. Des fois sous les traits du diable, d'autres fois avec un violon, comme dans l'enivrante danse macabre de Camille Saint-Saëns. La musique se peuple donc souvent d'apparitions, de spectres et de fantômes. Pour ouvrir cette émission, Gérard Griset nous parlait de chant pour franchir le seuil. Je vous propose donc de la clôturer par la vision de Jérôme Combier du début de l'après dans Kogarashi, le premier soupir des fantômes. Terme de cette émission et je vous remercie de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Vous pouvez la retrouver ainsi que les précédentes sur le site de Radio Campus Angers avec un espace dédié aux commentaires si vous souhaitez en laisser un. Merci à Étienne pour son aide à la technique et pour l'écriture de cette émission, je me suis appuyée entre autres sur l'article « Les musiques et la mort » de Joseph Lévy pour le magazine Frontières. Nous nous retrouvons quant à nous le lundi 19 février à 16h30 pour une émission consacrée aux mythes, aux légendes et à la magie. En attendant, nous nous quittons avec le superbe Lux Aeterna de George Crumb, car même dans un monde peuplé d'ombre, il y aura toujours des grains de lumière. Bonne journée et bonne écoute. Thank you.
Vous écoutiez Musicoscope. Retrouvez-nous en direct les premiers et troisièmes lundis du mois à 16h30 sur Radio Campus Angers 103 FM ou en replay sur votre plateforme de podcast préférée.